Maintenant, les lumières s'éteignent. En un clin d'œil, tout est plongé dans le noir. La musique s'arrête. Sous le barnum, les invités poussent des cris et s'agrippent les uns aux autres. Les bougies sur les tables ne font qu'amplifier la confusion, en lançant des ombres bondissantes sur les parois de toile. Impossible de voir ou d'entendre quoi que ce soit. Le vent s'emporte et rugit en couvrant les voies. Au dehors, la tempête fait rage, siffle et malmène le chapiteau. À chaque bourrasque, c'est toute la structure qui tremble sur ses bases, dans un terrible grincement de métal. Paniqués, les convives se recroquevillent. Les rabats de la tente, illuminés par des torches de jardin crépitantes, se sont dénoués et claquent dans le vent. À croire que cette tempête leur en veut personnellement, qu'elle leur adresse toute sa fureur. Ce n'est pas inédit que les plombs sautent, mais la dernière fois, la lumière était rapidement revenue. Les invités s'étaient bien vite remis à danser, à boire, à gober des pilules et à s'envoyer en l'air, à manger et à rire, en oubliant ce qui venait de se passer. Depuis quand la lumière est-elle coupée? Difficile à dire, dans le noir. Quelques minutes? 15? 20? Il commence à prendre peur. L'obscurité semble dissimuler une infinité de menaces. Enfin, les ampoules clignotent et se rallument. Tous applaudissent et lancent des vivas. Les voilà embarrassés de se découvrir accroupis, prêts à parer un assaut. Ils en rient et parviennent presque à se convaincre qu'ils ne sont pas effrayés. La lumière qui inonde désormais les trois tentes adjacentes devrait révéler une scène de fête, mais c'est plutôt le chaos qui règne. Sous le chapiteau principal, qui accueille le dîner, des éclaboussures de vin coagulent sur le sol. Une traînée écarlate macule le lin blanc d'une nappe. Des bouteilles de champagne encombrent toutes les tables, témoignant d'une soirée arrosée de verres levés au bonheur des mariés. Une paire de sandales argentées, laissées à l'abandon, pointe sous un siège. Sous la tente abritant la piste de danse, le groupe irlandais se lance dans un air plein d'entrain pour remettre la fête sur ses rails. Beaucoup d'invités s'y précipitent, en quête d'un soulagement facile. L'une d'entre eux, pieds nus, a marché sur du verre brisé et laisse des taches de sang par terre. Elles prennent une couleur rouille en séchant. Personne ne les remarque. D'autres convives errent sous la tente principale et se rassemblent dans les coins, telle la fumée d'une cigarette oubliée. Ils aimeraient bien s'en aller, mais ils n'ont guère envie d'abandonner leur abri au beau milieu de la tempête. Et personne ne peut quitter l'île, pas pour l'instant. Les bateaux ne viendront pas tant que le vent soufflera. Au centre de l'attention trône l'énorme gâteau de mariage. Pendant toute la journée, il est resté offert au regard, entier, parfait, avec sa traîne de feuillage en sucre scintillant sous la lumière. Mais quelques minutes à peine avant que les lumières ne s'éteignent, les invités se sont rassemblés pour assister à son éviscération. Sa génoise écarlate est désormais exposée aux yeux de tous. Puis, un bruit nouveau se fait entendre de l'extérieur. On pourrait presque le confondre avec le vent. Mais il prend de l'ampleur et monte dans les aigus, jusqu'à ne plus laisser aucun doute. Pétrifiés, les uns et les autres échangent des regards. Ce qu'ils perçoivent est facilement identifiable. C'est un hurlement de terreur. La veille. Ifa, la wedding planner. Presque tous les invités d'honneur sont arrivés. On passe aux choses sérieuses. Ce soir, c'est le dîner de répétition avec une sélection de convives, déjà le début du mariage en quelque sorte. J'ai mis le champagne au frais pour l'apéritif. C'est un Bollinger, grand cru, 8 bouteilles. Plus le vin pour le dîner et quelques caisses de Guinness, suivant les instructions de la mariée. Je n'ai pas à faire de commentaires, mais tout cela me semble un peu excessif. Enfin, ce sont des adultes, ils sauront certainement se tenir. Ou peut-être pas. Le témoin du marié a l'air du genre à causer des problèmes. Comme tous les garçons d'honneur, à vrai dire. Sans parler de la témoin de la mariée, qui est aussi sa demoiselle d'honneur, sa demi-sœur. Je l'ai vue errer seule sur l'île, courbée et hâtant le pas comme si elle fuyait quelque chose. Dans ce métier, aucun secret ne nous échappe. On voit ce à quoi personne d'autre n'a accès. Les convives seraient sans doute prêts à tuer pour de tels ragots. Lorsque l'on organise un mariage, on ne peut pas se permettre d'ignorer quoi que ce soit. Je dois composer avec les plus petits détails, guetter sous la surface les plus infimes remous, ceux qui pourraient se changer en tourbillon et emporter tous mes préparatifs si je n'y prends pas garde. L'expérience m'a appris que les courants les plus discrets s'avèrent parfois les plus puissants. Je parcours le rez-de-chaussée de la folie pour allumer les briquettes de tourbe dans les poêles, histoire d'avoir de bonnes braises le soir venu. Freddy et moi nous sommes mis à les tailler nous-mêmes dans les tourbières et à les sécher pour notre propre usage, suivant une tradition séculaire. L'odeur terreuse des feux de tourbe fera encore plus couleur locale, ce qui devrait plaire aux invités. Sans compter que les nuits peuvent être fraîches sur l'île, même au milieu de l'été. Les vieux murs de pierre de la folie empêchent la chaleur d'entrer, mais ne parviennent pas non plus à la retenir à l'intérieur. La journée a été étonnamment chaude, pour la région en tout cas, mais ce ne sera sans doute pas le cas demain. En allumant la radio, je suis tombée sur la fin du bulletin météo. Il va y avoir du vent. L'île est en première ligne, quel que soit le temps, et les tempêtes se montrent souvent pires ici que sur le continent, comme si elles épuisaient leurs forces sur nos têtes. Il fait encore beau pour le moment, mais dans l'après-midi, le vieux baromètre dans le couloir a vu son aiguille passer de « beau temps » à « variable ». J'ai préféré l'enlever. Je ne veux pas que la mariée le voie, même si je pense qu'elle n'est pas du genre à paniquer. Plutôt à se mettre en colère et à chercher un coupable. Et je ne sais que trop bien qui porterait le chapeau. « Freddy, tu lances bientôt le dîner ?» dis-je en passant devant la cuisine.
« Oui, tout est sous contrôle. »
Au menu ce soir, un clam chowder, typique du Connemara. Du poisson fumé et beaucoup de crème dans un bon bouillon. La première fois que j'ai visité cet endroit, à l'époque où il comptait encore des habitants, j'ai mangé quelque chose de ce genre. Nous servirons cette fois une version plus raffinée que la recette habituelle, à la mesure de nos clients. J'imagine qu'ils aiment à se croire raffinés. Nous verrons comment ils se comportent après quelques verres. Dans ce cas, il faudrait commencer à préparer les canapés pour demain, dis-je en passant en revue ce qu'il nous reste à faire.
Je m'en occupe.
Et le gâteau, mieux vaut s'y prendre à l'avance pour mettre la touche finale à la présentation. C'est vraiment quelque chose, ce gâteau. Et encore heureux quand on sait combien il a coûté. La mariée n'a pas sourcié devant la facture. Je crois qu'elle a l'habitude du luxe. 4 étages de génoise rouge sous un glaçage immaculé. Le tout orné de verdure en sucre assortie aux plantes qui décorent la chapelle et le barnum. Confectionné par un pâtissier de renom, selon les consignes de la mariée. D'une fragilité extrême, il a fait le voyage depuis Dublin. Assurer sa survie pendant la traversée n'a pas été une mince affaire. Demain, bien sûr, il sera détruit. Mais ce qui compte, lors d'un mariage, c'est l'instant. La cérémonie elle-même n'est pas le plus important, quoi qu'on puisse en dire. Orchestrer le bonheur, voilà mon métier. La raison pour laquelle j'ai choisi d'être wedding planner. La vie est compliquée, nous le savons tous. Des choses terribles peuvent arriver. Je l'ai appris dès l'enfance. Mais quoi qu'il advienne, notre existence n'est qu'une série de jours. Si l'on ne peut pas en contrôler plus d'un à la fois, on peut bel et bien organiser 24 heures et les gérer de bout en bout. Un mariage est une portion de temps, soigneusement découpée, dont je peux faire quelque chose d'abouti, de parfait, un souvenir à chérir une vie durant, une perle conservée d'un collier brisé. Freddy sort de la cuisine avec son tablier de boucher couvert de taches.
Comment tu te sens ?
Un peu nerveuse, si tu veux tout savoir, dis-je en haussant les épaules.
Il n'y a pas de raison, ma chérie.
Tu as déjà fait ça tellement de fois. Mais là, c'est différent. Ce n'est pas n'importe qui. Avoir décroché le mariage de Will Slater et de Julia Keegan, c'est un tour de force. Autrefois, je travaillais à Dublin. C'était mon idée de nous installer sur cette île, de restaurer sa folie qui tombait en ruine pour en faire une magnifique propriété avec 10 chambres, salon, cuisine et salle à manger. Nous y vivons à l'année, Freddy et moi, mais lorsque nous sommes seuls, nous n'occupons qu'une toute petite partie des lieux.